Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1 et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une aujourd'hui, la sécurité en zone rurale. La sécurité en zone rurale, la grande oubliée. La délinquance frappe aussi les Français qui vivent hors des villes. À 3 jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron fait des annonces depuis Gaillac, dans le Tarn. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, ne rejette pas la responsabilité du chaos au Stade de France sur les Anglais. Auditionné ce matin au Sénat, il reconnaît un échec. L'image de la France a été ébranlée. Le violeur de la Sambre, l'homme normal, le voisin sans histoire, jugé à partir de demain pour 56 viols et agressions sexuelles. Lionel Gougelot est allé sur place dans le Nord pour Europe 1. Vous verrez que tout n'a peut-être pas été fait pour stopper plutôt Dino Scala, c'est son nom. Pagaille en perspective dans les aéroports cet été, il manque du personnel, notamment à Nice, où l'on rejoindra Frédéric Michel. Les législatives et Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup parler de lui, la sécurité et ses conséquences sur le vote, on en parle avec vous au 39-21. On est également avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour, bonjour Jérôme Béglé. Et avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, qui va nous rejoindre dans un instant.
Europe 1.
J-3 avant le premier tour des élections législatives. Emmanuel Macron, quelque peu bousculé dans les sondages par la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, cherche à imposer ses thèmes. Il est de nouveau sur le terrain ce matin à Gaillac, dans le Tarn. Jacques Serret, vous y êtes. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Le président rend visite à une brigade de gendarmerie. 3 brigades supplémentaires doivent être déployées dans le département dans les prochains mois. Et ce déplacement, Jacques, apparaît comme une réponse aux récents propos de Jean-Luc Mélenchon sur les forces de l'ordre.
Oui, le leader des Insoumis s'en prend aux policiers, les accuse de tuer. Emmanuel Macron réplique par l'image en s'affichant aux côtés des gendarmes. Réponse à Mélenchon et par là même, le chef de l'État tente de prendre le contre-pied de l'épisode chaotique du Stade de France. Après les images désastreuses d'il y a 12 jours lors de la finale de la Ligue des Champions, le président, resté discret sur le sujet, trouve là le moyen de se montrer du côté de l'ordre. Ici, il veut évoquer la sécurité du quotidien et remettre sur le devant de la scène cette annonce qu'il avait faite en janvier dernier, la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Vous l'avez compris, à 3 jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron veut mettre toutes ses forces dans la bataille. Pour preuve, tout à l'heure, en début d'après-midi, il prononcera un discours d'une 30aine de minutes dans la commune de Puy-Celcy. Et signe qu'Emmanuel Macron est bien en campagne pour renouveler sa majorité. Le format de cette prise de parole sera le même qu'à Spézet ou Foura, au milieu du village, entouré des habitants, comme il y a 2 mois lors de la campagne présidentielle.
Jacques Serret à Gaillac dans le Tarn. Et pour le premier tour des élections législatives qui aura donc lieu dimanche, les sondages donnent l'actuelle majorité à 27% d'intention de vote, au niveau national bien sûr. Devancé par la NUPES qui pointe à 28% d'intention de vote, le Rassemblement national quant à lui ne dépasse pas les 20%, 19,5%. Il s'exprimait publiquement pour la première fois depuis le fiasco, depuis le chaos au Stade de France. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a répondu aux questions des sénateurs ce matin. Les élus ont demandé des explications au sujet des scènes du Stade de France à Saint-Denis le soir de la finale de la Ligue des Champions. Supporters étrangers agressés, voire dépouillés par des jeunes du 93 et des sans-papiers. Certains se sont introduits dans le stade sans billets. Les vidéos et les témoignages, on les connaît et ils ont choqué l'Europe entière. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain.
Tout cela a donc poussé Didier Lallement, le préfet de police de Paris, à reconnaître ce matin un échec. Il a prononcé le mot.
Oui, ce sont ses propres mots. C'est à l'évidence un échec, a déclaré Didier Lallement devant les sénateurs. Il a dit regretter les personnes bousculées ou agressées, surtout l'image, je cite, ébranlé de la France. En revanche, il persiste et signe sur le chiffre contesté de 30 à 40 000 personnes sans billets présentes ce soir-là devant le stade.
C'est moi qui ai donné ce chiffre au ministre. Je l'assume totalement. On peut avoir une discussion sur l'exactitude du chiffre, qui est en fait dans les tableaux qui ont été présentés par le ministre. Quand je dis 30 à 40 000, c'est 34 000, sur la base des indications qui nous étaient données ce soir-là par les opérateurs de transport et du constat que nous pouvions faire.
Mea culpa pour celui qui est présenté comme le responsable de la sécurité lors de cette finale. Le préfet de police a présenté ses regrets aux supporters britanniques et espagnols, notamment ceux qui ont respiré les gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre. Tout juste concède-t-il un problème de manœuvre, mais selon lui, la doctrine du maintien de l'ordre n'est pas en cause, ni les décisions qu'il a prises ce soir-là qui ont permis, dit-il, de préserver l'intégrité physique des personnes et la tenue du match.
Merci beaucoup William Molinier. Voilà le préfet de police de Paris qui a dit... C'est moi qui ai donné ce chiffre des 30 à 40 000 supporters sans billets au ministre. Merci beaucoup, William. Plus de voitures thermiques neuves vendues à partir de 2035 en Europe. Les députés européens ont voté hier. C'est forcément une révolution pour l'industrie automobile. Aurélien Fleureau, service économie d'Europe 1. Aurélien, la filière automobile est-elle prête à tout bouleverser comme ça ?
Alors, elle est en tout cas prête à relever de nombreux défis, hein, même si elle aurait préféré garder une petite part de véhicules hybrides pour ne pas tout miser sur l'électrique. Parmi ces défis, il y aura d'abord fabriquer les batteries sans être dépendant de l'Asie, comme c'est le cas actuellement. Alors c'est en cours, il y aura au moins 3 méga-usines en France. Leur production va démarrer d'ici 2023-2024. Il faudra réussir à être compétitif. Et puis il y a aussi le déploiement des bornes de recharge, alerte Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile.
Il faut aujourd'hui multiplier par 7 le rythme d'installation de nouvelles bornes de recharge entre maintenant et 2035, pour tenir les objectifs tels qu'ils seraient fixés dans cette réglementation. Donc c'est un gros défi.
Et puis la bataille a déjà commencé chez les constructeurs. Renault, Volkswagen, Stellantis, tous ont affiché de très fortes ambitions sur le 100% électrique, comme le constate Claude Cham, président d'honneur de la FIEV, qui représente des équipementiers automobiles.
Faire des voitures électriques, nous allons les faire. Le premier marché que nous avons à servir au monde, c'est le marché chinois. Donc nous savons que ce marché, de façon très autoritaire, sera électrique. Donc l'ensemble des constructeurs automobiles sont en train de se battre sur ce marché.
Et puis bien sûr, il faudra résoudre la question du prix. Pour l'instant, elle coûte en moyenne 50% plus cher qu'une voiture thermique.
Aurélien Fleureau, un violeur multirécidiviste devant les Assises du Nord dès demain. Dino Scala, que l'on surnomme le violeur de la Sambre, est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement 56 personnes, certaines mineures, et ce pendant 30 années. Cet homme avait pourtant une vie sociale plutôt classique. Il était même président d'un petit club de football. Mais une femme avait donné l'alerte il y a 20 ans de cela. Il s'agit de la maire de la commune de Louvroil, située dans la zone où agissait le prédateur sexuel. Elle s'est confiée à Lionel Gougelot pour Europe 1.
En découvrant la multiplication des agressions, y compris sur le territoire de sa commune, Annick Matighello, la maire de Louvroil, décide en 2002 d'alerter l'opinion sur la présence d'un prédateur sexuel.
La police était au courant, le procureur, le sous-préfet, et motus bouche cousue, on n'en parlait pas, il ne fallait pas en parler. Donc j'ai pris le taureau par les cornes, j'informe la population pour dire attention, il y a quelqu'un qui rôde, qui cherche ses proies, méfiez-vous, surtout les femmes qui travaillent très tôt le matin.
Car le mode opératoire de l'agression est déjà bien connue, mais en brisant le silence, Annick Matighello se voit reprocher par les autorités de perturber le travail des enquêteurs.
J'ai même été accusée de mettre entrave au bon déroulement de l'enquête.
Et puis vous alimentez la psychose, lui reproche-t-on encore. Alors après toutes ces années, ce que ne digère pas l'élu, c'est que tout n'a peut-être pas été fait à l'époque pour sensibiliser les habitants.
On nous dit qu'il y a eu un portrait robot, il y en a même 2 ou 3. En Belgique, ils les ont affichés. Et nous, moi en tant que maire, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Alors qu'il fréquentait le terrain de foot de Louvroil avec son équipe. Donc forcément, si on avait eu le portrait robot, les sportifs, ils l'auraient reconnu.
Des alertes qui, selon Annick Matighello, auraient sans doute évité d'autres victimes. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Il est midi 10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on va aller à Nice. Ça sera la pagaille à l'aéroport. Ce sera la pagaille dans plusieurs aéroports d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il manque du personnel. Et cet été, ça va être compliqué. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Une centaine de vols annulés depuis ce matin et jusqu'à 14h à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Conséquence de quoi ? Conséquence d'une grève des personnels qui réclament des hausses de salaire. Jusqu'alors, le plus grand aéroport de France était plutôt épargné par les problèmes de logistique que connaissent de nombreux pays. Mais le manque d'effectifs conjugué au retour massif des voyageurs ne devrait manquer d'encombrer les aéroports français. Ça va être compliqué cet été. Et à l'approche des grands départs, l'inquiétude monte. Illustration à l'aéroport de Nice. Frédéric Michel.
Avec cet été plus de 50 000 personnes attendues chaque jour, les deux aérogares de l'aéroport de Nice ne devraient pas échapper aux longues files d'attente. Aymeric Staub, porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur.
Il va y avoir certains jours et à certaines heures des pics de trafic. Deux raisons à cela. La première, c'est qu'on a une exigence accrue en matière de sûreté en cette période. Et la deuxième, c'est qu'il y a encore des postes à pourvoir chez nos sociétés partenaires justement en charge de ces opérations de sûreté. Je pense notamment au passage d'inspection-filtrage où on doit enlever sa ceinture.
Les voyageurs sont appelés à anticiper.
On va mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments et préserver notre qualité de service. Mais évidemment, on invite les voyageurs à prendre leur disposition, à venir un peu plus tôt qu'ils ne le penseraient nécessaire pour qu'ils puissent embarquer en toute sérénité.
Des conseils qui semblent bien accueillis par ces voyageurs rencontrés à Nice.
On a compris qu'il y avait beaucoup de contrôles, donc pour nous, ça ne changera rien. Il faut que les gens soient un peu disciplinés.
Bien sûr, on s'adapte à tout.
Enfin, je trouve que normal, en plus d'avoir pas mal de contrôles, sécuriser tout.
Tout dépend après de si vous travaillez avant et que vous devez sortir du travail plus tôt, etc. pour aller prendre l'avion. Oui, là, c'est perturbant.
À Nice, deux sociétés se partagent le marché de la sécurité de l'aéroport. Elles peinent aujourd'hui à recruter.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1. Le procès Platini-Blatter. Michel Platini, Sepp Blatter. Procès qui a lieu en Suisse. On en parlait hier dans Europe Midi. Procès sur fond de transfert d'argent suspect à la grande époque de la FIFA. Au cœur du procès, le versement de 2 millions de francs suisses à Michel Platini, 1 800 000 euros. Abel Inzon avec nous en Suisse. Johan Tritz, bonjour Johan.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Michel Platini a pris la parole pour la première fois ce matin. Il a lâché ses coups, hein ?
Oui, un Michel Platini clair, net, concis, surtout avec une grande confiance affichée lors de son interrogatoire. Le Français a parfois réussi à décontenancer la juge sur certaines réponses et même à faire un peu d'humour lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi avez-vous demandé 2 millions de francs suisses alors que sur votre contrat initial, vous aviez droit à 2,8 millions ?» Réponse « Je me suis trompé, c'est ma faute, ce n'est pas mon truc, la finance, ça les arrangeait bien en plus à la FIFA, déclenchant les rires dans la salle. » Et s'il a demandé cette somme 8 ans après avoir quitté ses fonctions de conseiller technique auprès de Sepp Blatter, c'est tout simplement dit il parce qu'il avait vu d'autres membres de l'association du football mondial quitter leurs fonctions avec un gros chèque et non pas un pot de vin pour son soutien pour l'attribution du mondial au Qatar. D'une aisance déconcertante pendant plus d'une heure, Michel Platini a aussi tenu à charger son ancienne maison, la FIFA. Dans une tirade, Michel Platini se retourne vers l'accusation et s'insurge. Bizarre quand même que l'affaire sorte en 2015 au moment où je suis candidat pour la présidence alors que pendant 4 ans, il n'y a rien eu et que ce paiement a été connu de tous. Pointant du doigt sans le nommer, l'actuel patron Gianni Infantino, les avocats de la FIFA qui ont d'ailleurs tenté de poser des questions à Sepp Blatter entendu en premier, puis à Platini, mais elles sont restées sans réponse. Je ne leur parlerai pas, pas après la manière dont j'ai été traité. J'espère juste qu'il y aura une justice un jour, a conclu l'ancien numéro 10 des Bleus. D'autres témoins sont attendus dans les prochains jours. Fin du procès prévu le 22 juin prochain.
Johan Tritz, merci beaucoup Johan. On va continuer à parler football avec une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'un des clubs historiques du football français. L'Olympique Lyonnais devrait être racheté par un Américain prochainement. Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'OL, resterait cependant en poste, mais il y aura tout de même du neuf avec du vieux. Jean-Luc Boujon avec nous, du neuf avec du vieux. Bonjour Jean-Luc. Hein.
Bonjour.
Je parle de neuf avec du vieux parce que l'ancien attaquant de l'OL, Alexandre Lacazette, est de retour dans le Rhône ?
Oui, effectivement, hein, et le président Aulas l'a annoncé tout à l'heure, il l'a présenté en grande pompe en disant bah voilà, c'est l'enfant prodigue qui revient au bercail 5 ans après son départ pour Arsenal, a une honnête carrière, ce qui montre un peu le nouveau choix du club de faire du neuf avec du vieux, de retrouver ses anciens pour retrouver une certaine réussite sportive qui fuit le club qui a été 8e l'an dernier en Ligue 1. Mais Jean-Michel Aulas surtout est revenu sur l'article de l'équipe qui signale que le club a été revendu est déjà revendu à un Américain et ce serait ça la nouvelle ère pour le club. Un club, ce qui serait une petite révolution parce que Jean-Michel Aulas est le propriétaire depuis 35 ans de ce club. Mais tout à l'heure, Jean-Michel Aulas a apporté un démenti. Il a dit que des discussions étaient en cours. Écoutez.
Oui, il y a un certain nombre de discussions. Non, il n'y a rien de conclu. Donc il y a un processus qui est en cours. Le point important, c'est que dans toutes les discussions, il a été précisé qu'on allait faire un certain nombre de renforcements des fonds propres très significatifs. Et deuxièmement, que j'allais rester à la tête en tant que président directeur général du groupe.
Effectivement, Jean-Michel Aulas devrait rester au moins 3 ans de plus pour accompagner ce nouveau propriétaire qui mettrait 500 millions d'euros sur la table pour acheter le club, plus 100 millions pour tout de suite frapper fort sur le marché des transferts. Une bonne nouvelle pour les supporters comme Hervé qui tout de même se méfie un peu.
Je pense que c'est une bonne chose pour l'OL pour passer un nouveau palier et pas rester sur ces années un peu d'échecs. Puisque là, depuis 2012, on ne gagne plus rien et donc c'est un peu triste quand même. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça soit toujours à des Américains et que ça reste pas sur des investisseurs plutôt français avec des fonds américains. On ne connaît pas trop leur politique. Pour moi, c'est plutôt de faire du profit que de gagner des titres.
Voilà, alors selon Jean-Michel Aulas, la vente devra être bouclée avant le 23 juin, donc c'est vraiment imminent ce changement d'air à la tête du club de l'Olympique Lyonnais.
Jean-Luc Boujon à Lyon, merci beaucoup Jean-Luc Boujon. Il est midi 17, la météo avec vous Anissa Haddadi, avec une nette amélioration hein.
Oui, le temps redevient sec, c'est vrai, sur la majorité des régions, c'est bien mieux qu'hier. Alors cet après-midi, comme ce matin, nous avons toujours dans le nord-est, entre les Ardennes et les Alpes du Nord, en passant par l'Alsace, des petites averses résiduelles de cette perturbation qui est en train de filer vers l'Allemagne. Au bord de l'Atlantique, on a de plus en plus de soleil, hein, c'est très agréable et lumineux. Entre le Pays Basque et la Corse, là, le ciel s'éclaircit aussi. Mais attention, on a beaucoup de vent au bord de la Méditerranée, Mistral et Tramontane jusqu'à 90 km/h. Les températures 18 degrés à Aurillac, 20 pour Paris, Lille et Dijon, 22 à Bordeaux, 24 pour Carcassonne. Et la maximale est prévue du côté de Montpellier ou encore à Nice avec 29 degrés.
Merci beaucoup Anissa. Midi 18, restez bien avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. On va parler évidemment des législatives. On est à 3 jours du premier tour et le match Macron-Mélenchon est en train de s'installer. Jean-Luc Mélenchon qui s'installe dans cette campagne. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment en est-on arrivé là ? Comment Jean-Luc Mélenchon s'est-il installé dans le paysage politique à quelques jours de ce premier tour des législatives ? On en parle dans un instant avec vous au 39-21 et avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD et avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Midi 22, en quelques semaines, on est passé du match Macron-Le Pen au match Macron-Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui a perdu la présidentielle, mais qui a réussi à revenir sur le devant de la scène politique dans cette campagne des législatives. On en parle avec vous, vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne, vous donnez votre avis, évidemment, vous connaissez la règle. Et puis on est avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD, le journal du dimanche. Rebonjour Jérôme.
Rebonjour Romain.
Et Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1 qui nous a rejoint.
Bonjour, bonjour Romain, Louis. Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon ? On a l'impression que cette campagne tourne autour de lui, Jérôme Béglé.
On doit ça autant à son talent qu'à ses outrances. Il a évidemment, Jean-Luc Mélenchon, un inévitable talent d'orateur. Il sait porter le fer là où ça fait mal. Il sait rebondir sur l'actualité. Il sait évidemment faire la petite phrase. Et il sait s'opposer en opposant officiel au pouvoir, à la majorité, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la partie, je dirais, acceptable, voire admirable de sa personnalité. De l'autre côté, quand il va dire « la police tue », évidemment, il fait le buzz, évidemment, il satisfait une partie, à mon sens, minoritaire de son électorat, mais ses outrances, ses dérapages lui assurent une caisse de résonance, mais font qu'il devient un personnage beaucoup moins estimable, beaucoup moins aimable. Mmh. Il a toujours, lorsqu'il dit, lorsqu'il fait preuve de violence verbale, lorsqu'il est à la limite de faire preuve de violence, rappelez-vous, on ne me touche pas, la République c'est moi, bon... Lorsque, coûte que coûte, il soutient une frange de ses candidats aux législatives qui ont eu des petites phrases ou un passé parfois judiciaire étrange, quand il fait le jeu de l'islamo-gauchisme, parce que Jean-Luc Mélenchon, sans être un islamo-gauchiste revendiqué, fait le jeu de cette opinion, de ce comportement-là, il devient quelqu'un de beaucoup moins estimable, il devient quelqu'un, en tout cas, d'outrancé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce sont ces deux... traits de caractère qui font qu'aujourd'hui il occupe parfois ad nauseam l'espace médiatique.
Ouais, il réussit à animer cette campagne des législatives. Il a dit hier, c'est panique à bord chez La République En Marche. Vrai, faux, Louis de Raguenel ?
C'est relativement faux. Parce que, in fine, en fait, ce que vient de dire Jérôme Béglé sert plutôt Emmanuel Macron. Parce que ça permet de montrer, pour Emmanuel Macron, ça lui permet de montrer qu'il est le seul rempart face à la NUPES, face à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, hier et aujourd'hui, en ce moment même, dans le Tarn, Emmanuel Macron s'affiche en défenseur de la police, défenseur de l'autorité, pour bien montrer sa différence avec Jean-Luc Mélenchon. L'objectif à la fois de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, en fait, il y a pas un accord tacite, mais de fait, ils se font monter, ils se font la courte échelle tous les deux, politiquement. Ouais. Je ne parle pas du fond. Donc Jean-Luc Mélenchon, lui, essaye de courtiser une partie de son électorat qui vient des banlieues, très anti-police, indigéniste, woke, anti-France. Et voilà, ça permet à Emmanuel Macron de montrer que lui est très clair sur ces sujets-là, alors que ça n'a pas toujours été le cas, notamment après le premier tour de l'élection présidentielle, où là, pour le coup, Emmanuel Macron était parti, il avait mis son cap en direction de Jean-Luc Mélenchon pour essayer de séduire ses électeurs. Donc, simplement, voilà, pour dire que pour Emmanuel Macron, c'est une aubaine politique, puisqu'il est en train d'essayer de dire, par exemple, tous les gens tentés par plusieurs candidatures à droite aux législatives, écoutez, il y a un danger, le péril rouge. Pour faire face au péril rouge, il n'y a qu'une seule candidature possible, c'est celle de La République En Marche. Et moi, c'est la raison pour laquelle je pense que, vous savez, on lit beaucoup dans les journaux que, attention, Emmanuel Macron a peur, il s'inquiète de la montée de Jean-Luc Mélenchon. En off, en privé, quand on contacte des conseillers très proches d'Emmanuel Macron, eux, ils sont plutôt optimistes. Et parfois, il y en a certains même qui jubilent, qui disent politiquement, je ne parle pas du fond encore une fois, politiquement, ça va les servir et ils sont convaincus que globalement, ça va les aider.
Bon, vous parlez des titres de presse, Jérôme Béglé. Non, vous écoutez, il y a eu du JDD, sueur froide.
Tout le monde dit ça. Oui.
Je vais apporter deux petites nuances à ce que vient de dire avec talent Louis. D'abord, les députés en campagne ou les candidats de la majorité en campagne font remonter que le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat est en train de vitrifier cette campagne et que celui qui apporterait la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Et donc ils disent attention, et on voit bien les fruits que ça a apporté, comme 3 jours avant ou 4 jours avant le premier tour, Madame Borne dit qu'on va verser un chèque de quelques centaines d'euros. Donc il y a eu quand même une réponse, ça veut bien dire qu'il y a eu une petite peur, en tout cas une petite alerte. Deuxième chose, je ne suis pas certain qu'une Assemblée nationale dans laquelle il y aurait 150, 170, peut-être un peu plus, députés NUPES soit très paisible et très facile à gouverner pour le gouvernement et pour la majorité. Si ce sont des gens qui font des rappels au règlement, qui posent des amendements, qui font de l'obstruction matin, midi et soir, ils vont vite regretter à La République En Marche et à Renaissance pas avoir un parti socialiste ou les Républicains un peu plus calmes, un peu plus arrangeants quand il s'agit de discuter de textes même avec lesquels ils ne sont pas d'accord.
Midi 27, bonjour Paul, vous nous appelez du Val-de-Marne.
Oui, bonjour.
Vous êtes socialiste depuis 50 ans. Pour qui allez-vous voter ? Je vais vous poser la question dans un instant. Petite publicité et flash, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Merci d'être avec nous. Le débat continue. On parle des législatives, on va parler de la sécurité également. Tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain. Didier Lallement reconnaît un échec. Le préfet de police de Paris auditionné au Sénat 12 jours après le chaos au Stade de France. Didier Lallement assume toutefois son chiffre de 30 à 40 000 billets non valides. Cet après-midi, ce sera au tour des responsables de la Fédération française de foot et de la sécurité d'être entendus. Entendu aussi le maire de Liverpool, victime de pickpocket. Emmanuel Macron est dans le Tarn à Gaillac, un déplacement sur le thème de la sécurité dans le monde rural. Il a rencontré en fin de matinée une nouvelle brigade de gendarmerie. Le conducteur du véhicule accusé d'un refus d'obtempérer samedi dernier à Paris a été présenté à un magistrat en vue d'une possible mise en examen. Lui-même grièvement blessé par les policiers, il avait été placé en garde à vue pour tentative d'homicide. L'Ukraine pourrait reprendre Severodonetsk en 2-3 jours dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentale de longue portée. C'est ce qu'assure le gouverneur local pour Volodymyr Zelensky. C'est dans cette ville clé que se joue le sort du Donbass. L'Europe s'engage sur la route de l'électrique en 2035. Les véhicules essence, diesel ou hybride neufs ne pourront plus être vendus en concession. Ils devront être remplacés par des véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène. Et puis, Jean-Michel Aulas veut aller vite. Le président de l'Olympique lyonnais veut conclure d'ici le 23 juin les discussions sur l'entrée au capital d'investisseurs étrangers. Il évoque notamment un homme d'affaires américain et un fonds d'investissement chinois.
Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure à 13h pour un prochain flash. À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le premier tour des législatives, c'est donc dimanche et on est en ligne avec Paul. Bonjour Paul, rebonjour, vous nous appelez du Val-de-Marne. Vous avez 84 ans, on parle politique avec vous. On est également avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec Jérôme Béglé, le patron du JDD, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Alors Paul, vous êtes socialiste depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la NUPES ? On parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors d'abord, je veux dire que dans ma commune, il n'y a pas de socialiste qui se présente avec la NUPES, ce qui veut dire que je vais voter blanc.
Ah oui.
Je ne peux pas voter pour un extrême gauche, ni un extrême droite. Même si je ne suis pas d'accord avec M. Macron, je voterai blanc. Mais je suis en colère après les socialistes qui se sont fait avoir par M. Mélenchon, tout ça pour récolter des places. Je veux dire, comment les socialistes qui sont républicains peuvent-ils s'associer avec un radical ? Un radical qui critique la police, un radical qui va chercher les voix des indigénistes et de certaines banlieues en faisant la surenchère, je trouve ça lamentable.
Vous vous sentez orphelin ?
Je suis orphelin, de toute façon. Et je pense que je ne suis pas le seul parmi les socialistes. Il y a des dissidents, il y a des gens comme M. Le Foll, M. Cazeneuve, M. Rebsamen qui ne voteront pas pour la NUPES, c'est certain. Donc, les anciens comme nous, on garde notre honneur, si on peut dire. Hein. On ne se vend pas pour une place.
Voilà. Vous ne vendez pas pour une place. Il vous fait peur, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES ?
Ouais. Toujours. Et puis en plus, on peut s'associer à un maire de Grenoble qui permet le birkini dans les piscines, je trouve ça lamentable. Comment on peut accepter des vêtements pareils ? On parle de non-respect de la loi. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle déjà d'hygiène. Quand on va dans des piscines, on nous demande d'avoir des maillots spéciaux. Mmh. On accepte des birkinis dans les piscines. Je trouve ça lamentable. Donc, par question électoraliste, la NUPES enfreint toutes les lois pour avoir des voix.
Jean-Luc Mélenchon, qui ambitionne d'être Premier ministre, ça vous fait peur ? Vous pensez qu'il est à la hauteur, tiens ?
Il faut dire déjà que c'est pas Noël, que ça m'étonnerait qu'il soit Premier ministre. Mmh. Il s'est présenté 3 fois à la présidentielle, il a échoué. Il échouera ici, mais ce qui me fait peur, c'est que même n'étant pas Premier ministre, il va essayer de tout renverser, quitte à faire une révolution pour essayer d'avoir ce poste. Et je plains M. Macron pour diriger ce pays avec M. Mélenchon et sa clique.
Oui, alors attendons les résultats de l'élection présidentielle. Hein. Il y a la campagne et puis après il y a les résultats. Oui, Paul.
Je vous rappellerai si M. Mélenchon est Premier ministre, je vous rappellerai, mais ça m'étonnerait. Hein.
Ah bah ça...
Quand on discute avec les gens, on s'aperçoit que une minorité de personnes votera pour lui. Et vous verrez qu'il n'aura pas les 150 députés qu'on dit, mais il en aura beaucoup moins.
Même si
le fait qu'il ait parlé comme ça de la police, ça m'étonnerait que ça lui fasse du bien. Hein.
Ça lui fasse du bien. Même s'il ne l'est pas, vous rappelez, bien sûr. Il y a Louis Dragnel qui a une question à vous poser.
Bonjour Paul, oui. J'avais deux petites questions. Moi, j'entends votre sincérité, votre déception par rapport à justement ce qu'a fait le Parti Socialiste pour ces élections législatives. Mais est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que vous y attendiez ? Dans la mesure, c'était ma première question. Ça fait plusieurs années maintenant que le Parti Socialiste glisse un peu et on ne sait pas très bien où il veut aller. Et ma deuxième question, c'est que par rapport à ce que vous dites, vous allez voter pour qui ?
Blanc. Je ne vote pas pour M. Macron parce que je suis anti-Macron. Et je ne peux pas voter pour la NUPES ni le Front National. Et comme chez moi, il n'y a pas, comme dans certaines communes, de socialistes dissidents pour qui j'aurais pu voter, je voterai blanc.
Vous allez voter blanc aux législatives. Merci beaucoup, Paul.
Alors, deuxièmement, je voulais vous dire, c'est avec cette nouvelle direction du Parti Socialiste, beaucoup de socialistes sont partis. Je pense que cette direction est une direction qui cherche des voix, c'est tout. Mais s'il y a eu dans cette direction, je pense qu'il ne se serait pas vendu à M. Mélenchon.
À M. Mélenchon. Merci Paul, merci de nous avoir appelé du Val-de-Marne. Merci beaucoup, retraité, 84 ans. Très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
À bientôt, au revoir. Alors, témoignage de Paul, voilà, un déçu. Jérôme Béglé voulait
réagir. Je pense qu'il n'est pas le seul, parce que quand même, quand on regarde de près le programme de la NUPES, qui est quand même un ersatz assez prononcé de celui de LFI, il y a beaucoup de choses qui choquent les socialistes purs et durs. La laïcité, c'est quelque chose qui est très important aux yeux des socialistes.
Canal historique.
Et cette laïcité, elle est quand même, si ce n'est oublié, voire complètement foulée aux pieds par la NUPES. Et puis, les socialistes, c'est pas le coup d'éclat permanent. Pour faire référence à un livre d'un des plus célèbres socialistes de France, François Mitterrand. Or, Jean-Luc Mélenchon, c'est le coup d'éclat permanent, et on sent que l'accord signé, il va être vite déchiré, et qu'il fera ce qu'il aura envie de dire, ce qu'il aura envie de faire, il montera au credo quand il le souhaitera, et sans se soucier de ce que pensent derrière lui ses alliés. Et ça, ça va choquer profondément des socialistes classiques, dirais-je.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à la campagne, dans le Tarn, en zone rurale. Parce qu'à la campagne, on a l'impression que tout est fait pour les banlieues à qui l'on verse beaucoup d'argent. Sur la question de la sécurité qui intéresse le président aujourd'hui, les campagnes sont sous-dotées avec des gendarmes qui doivent s'occuper de territoires de plus en plus grands. Louis Dragnel, pourquoi est-ce qu'il va dans le Tarn ? Pourquoi est-ce qu'il parle sécurité en zone rurale aujourd'hui, Emmanuel Macron ?
Alors déjà, le Tarn, c'est la terre de Jaurès, par rapport à la conversation d'avant. Faut pas l'oublier. Et dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon était très très haut, très très élevé au moment de l'élection présidentielle. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, c'est loin de Paris. Et ça lui permet d'expliquer comment est-ce qu'il veut remodeler le maillage territorial de la sécurité du quotidien. Et donc avec une annonce de renfort de gendarmes sur place et une sorte de reconfiguration de l'organisation de la gendarmerie sur place. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, l'objectif politique, c'est de montrer que lui, Emmanuel Macron, est conscient du fait que les Français sont en attente de sécurité et lui répond à ses besoins. Et politiquement, donc on l'a dit, sur les terres de Jaurès, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé très haut, et donc ça permet de continuer de jouer le match avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu le même match que celui qu'il avait essayé de jouer avec Marine Le Pen avant le premier tour de l'élection présidentielle, et même pendant l'entre-deux tours, là pour le coup, il n'y avait plus de suspense puisqu'il n'y avait que deux candidats. Mais lui, ce qu'il essaye vraiment de faire, c'est la tactique politique à l'ancienne. Si vous pouvez choisir votre ennemi, c'est quand même mieux. Et si vous pouvez le désigner. Ouais. Et là, pour le coup, il a laissé Jean-Luc. Vous savez, on a beaucoup expliqué que Emmanuel Macron était très silencieux au lendemain de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, lui, était omniprésent partout dans les médias. Eh bien, Emmanuel Macron l'a laissé prospérer, l'a laissé grandir, l'a laissé monter en puissance, l'a laissé aussi se saisir de polémiques pour ensuite mieux incarner la seule opposition à Jean-Luc Mélenchon. Et de fait, ça fonctionne puisque aujourd'hui, on ne parle que de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron.
Dans les zones rurales, c'est souvent le vote Le Pen, alors peut-être pas dans le Tarn, mais...
Si, alors il y a d'autres circonscriptions, je connais un peu le Tarn, il y a d'autres circonscriptions où le Rassemblement National est très fort, et d'ailleurs c'est ce qui désespère certains socialistes locaux, c'est que la terre de Jaurès, les anciens électeurs socialistes, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont voté pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Donc il y a un symbole qui est très fort avec de multiples facettes.
Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle ne se bat pas dans cette campagne. Elle y va, elle fait le job, elle fait des interviews, il n'y a pas la niaque de la présidentielle.
Alors Marine Le Pen, elle a théorisé une chose, c'est que les Français ne se dédieraient pas aux législatives 2 mois ou 1 mois et demi après les présidentielles. Bon, et elle veut ancrer une chose, c'est que celle qui est arrivée au second tour de cette présidentielle face à Emmanuel Macron, c'est elle, et c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Donc elle lui rappelle de temps en temps que le match, il a été plié entre deux. Bon, cela dit, effectivement, elle commet à mon avis quelques erreurs tactique. Elle prend une grosse semaine de vacances quasiment au lendemain du second tour, alors que c'est là qu'il fallait dire quand même je sors de ce second tour auréolé d'une défaite très honorable, je sors de second tour quand même crédibilisé et je fais mieux que mon père il y a X années et moi-même il y a 5 ans. Bon, et on sent qu'elle
a été une erreur de partir en vacances au lendemain.
Pas le faire. Ouais. Elle avait juillet-août pour faire ce qu'elle voulait, mais vous sortez pas, vous partez pas comme ça à cet instant crucial. Alors elle a laissé le bébé à ses barons, particulièrement à Jordan Bardella, qui a pas été maladroit, mais comme il est un peu jalousé en interne, du coup sa voix n'a pas autant porté que celle de la patronne. Et puis bon, quand vous avez été on a un exemple assez comment dirais-je dans l'autre sens, un peu presque exagéré dans l'autre sens, c'était Ségolène Royal qui à chaque interview nous rappelle qu'elle a été au second tour de la présidentielle et qui capitalise encore là-dessus 15 ans après. Mais entre l'excès de l'une et l'excès de l'autre, il y avait un point moyen à trouver. Je ne sais pas pourquoi elle a eu l'air de dire bon, bah, maintenant c'est fini, je m'en fiche, je me mets déjà en pré-retraite, si je puis dire.
Les questions de sécurité, quel impact dans le vote de dimanche prochain pour ce premier tour des législatives ? On en parle dans un instant avec vous au 39-21, avec Jérôme Béglé, le patron du JDD, du journal du dimanche, avec Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. On sera dans un instant en direct de Troyes avec Yves qui nous a appelé de Troyes. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h46, Emmanuel Macron à la campagne, dans le Tarn, en zone rurale, pour parler des questions de sécurité. On est en ligne avec Yves qui nous appelle de Troyes. Vous êtes retraité. Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. L'insécurité à la campagne, vous la constatez, vous avez eu des problèmes, qu'est-ce que vous en dites ?
À titre personnel, je n'en ai pas eu, mais j'ai pu constater, ne serait-ce qu'à la lecture des quotidiens locaux et régionaux, que de plus en plus dans les zones rurales et parfois aussi dans les villes moyennes, il y a de plus en plus d'incivilité. Et j'en prends par exemple, dans les vignobles, dans les exploitations agricoles, il y a de plus en plus d'incivilité, de vol, de saccage, etc. Et par ailleurs, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a également aujourd'hui des regroupements de dealers qui viennent gangréner les communes rurales, simplement parce qu'on constate qu'elles ont plus de liberté pour activer leur trafic, elles sont beaucoup moins contrôlées, comme elles peuvent l'être dans les grandes cités urbaines. Donc elles agissent en toute tranquillité, et j'ai le sentiment, et je ne suis pas peut-être le seul, à penser que c'est une gangrène qui est en train de se développer dans notre pays.
Effectivement, le trafic de drogue, bon, ça existe dans les grandes villes, ça, je ne vous apprends rien. Ça existe également dans les villes moyennes et dans les toutes petites villes. Au fin fond de la campagne, il y a un ou des dealers qui vendent de la drogue. Au vu et au su des habitants, évidemment, effectivement.
Oui, qui sont désarmés face à cela, en fait. Et le problème, est, on rejoint là peut-être le voyage du président de la République dans le Tarn, je ne sais pas si ça servira à quelque chose, au moins une prise de conscience, parce qu'il y a le fait, les rapports des habitants dans les communes rurales avec les gendarmes sont beaucoup plus étroits que la police ne peut avoir avec les habitants des grandes cités.
Oui.
Et c'est ce pourquoi il est vraisemblable, je trouve qu'il serait intelligent de privilégier en fait les centres de gendarmerie dans les petites bourgades, et dans les chefs-lieux de canton notamment, parce que le lien entre les habitants et les gendarmes sont généralement très étroits, et en plus, ils ont une capacité, étant directement sur le terrain, d'intervenir souvent avec plus d'efficacité.
C'est vrai, et souvent les habitants connaissent les gendarmes ou le patron de la gendarmerie locale, bien sûr.
Les gens... dans les communes rurales, ils connaissent un peu leur monde, ce qui l'entoure, que ce soit et les gendarmes, mais aussi parfois les malfrats. Ils ont des informations qui ne sont pas en possibilité, en connaissance, par exemple, lorsqu'il y a des descentes de CRS massives dans un secteur, on passe 3 jours et on s'en va. C'est pas le cas avec les gendarmes. Et là, je pense que, en plus, cette politique de gendarmerie dans les communes rurales et les petites communes pourrait éviter un risque grave à terme, c'est-à-dire peut-être les envies d'autodéfense de gens. Je pense notamment aux vignerons, je pense aux agriculteurs qui sont parfois pillés ou des saccages sont faits dans leurs exploitations. Et le risque de l'autodéfense à terme, dans la mesure où ces gens-là ont le sentiment peut-être aussi que l'accroissement des faits de violence laisse plus ou moins, sinon indifférente, mais éloigner la justice, je pense que là, il y a un risque de l'autodéfense dans les zones rurales où les délits sont de plus en plus fréquents.
Il ne faut évidemment surtout pas se faire justice soi-même. Il y a assez peu d'affaires en France. Je parle sous le contrôle de Louis Dragnel, qui est aussi le patron du service police-justice d'Europe 1. Il y a assez peu d'affaires d'autodéfense, et heureusement. Mais ce que souligne Yves, que je vais remercier, merci beaucoup Yves de nous avoir appelé depuis 3. Très bon après-midi à vous, merci beaucoup. Il y a assez peu d'affaires d'autodéfense, effectivement. Mais il y a ce risque que les gens se disent « j'en ai marre de me faire voler mon tracteur, mes outils, voilà, à la campagne aussi. »
Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. En fait, le problème, c'est que c'est la base du contrat social de Rousseau. Les citoyens, les Français payent des impôts pour déléguer la gestion de la sécurité à l'État, ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Et le problème, c'est que jamais l'État n'a déversé autant d'argent dans la sécurité. Il y a aussi la sécurité privée, les polices municipales, et pourtant l'insécurité continue de progresser. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a tout ce paradoxe-là. Donc c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu autant d'efforts sur la sécurité et en même temps une insécurité qui explose, ça montre que oui, la société est beaucoup plus violente. Et quand même, Romain, une petite nuance par rapport à ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui, toutes les actions d'autodéfense, je pense aux bijoutiers de Nice, j'ai plein d'exemples qui viennent en tête, heurtent profondément les gens, heurtent profondément les Français, parce qu'ils se disent, mais c'est complètement une inversion des rôles. C'est-à-dire que c'est la personne qui se fait cambrioler, qui se défend pour éviter de mourir ou de se faire piller, qui finalement se retrouve en prison, et la victime, c'est l'agresseur. Mmh. Du coup, il y a quelque chose de complètement contre-intuitif pour des Français qui ont les pieds sur terre.
Effectivement. Sur les questions de sécurité, il y a évidemment l'affaire de la légitime défense à Paris, avec des policiers qui ont dû tirer sur une voiture qui leur fonçait dessus, conduite par un chauffeur. Issue dramatique, une jeune femme est décédée. Ça peut avoir un impact sur le vote, Jérôme Béglé ?
Ah, moi, je pense beaucoup. Oui. D'abord, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué des Français, qui se multiplie. On voit qu'il y a des victimes issues de cela. Et puis, quand même, quand vous faites un délit de fuite, c'est que, pardon, je vais dire un truisme et qui va beaucoup choquer pourtant, c'est que si vous fuyez, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Normalement, quand on vous demande de vous arrêter, vous êtes en voiture, si vous avez votre permis, si tout va bien, vous dites, bon, ça va me prendre 3 minutes, mais ça va être vite réglé. Quand vous forcez un barrage de police et que vous dites, oulala, il y a un truc qui ne va pas passer. Et donc, c'est pour ça que souvent, ça se finit pas très bien.
Louis Dragnel, vous avez des informations sur le profil du passager arrière de cette voiture. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Oui, parce que donc on s'est beaucoup intéressé au profil du conducteur, qui a un CV judiciaire long comme le bras, hein, quand même. Il faut rappeler juste 2-3 petites choses. 80 signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour le conducteur. Conduite sans permis figure dans le fichier des personnes recherchées. Il purgeait une peine de prison, il était sous le régime de la semi-liberté. J'en passe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, les passagers de la voiture, aujourd'hui, se présentent dans les médias comme étant des oies blanches. Évidemment, ils n'ont rien à voir avec l'histoire, ce ne sont pas eux qui étaient au volant, mais par exemple, le passager arrière, 36 ans. Je vous lis juste quelques faits où il a eu des problèmes avec la police, juste l'année 2005. Voilà. Je vais m'arrêter parce que la liste est tellement longue, il y a 136 citations dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Ah oui. Donc vol avec violence aggravée par 2 circonstances, refus d'obtempérer, donc la personne, c'était pas la première fois qu'elle vivait ça, destruction d'un véhicule privé, exposition à un risque de mort ou mutilation par violence délibérée contre quelqu'un, conduite d'un véhicule sans permis, refus à nouveau d'obtempérer à un contrôle de police, outrage à personne chargée d'une mission de service public, c'était un policier, recel de biens avec vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, encore un problème avec les policiers, vol avec violence, conduite à nouveau sans permis, prise du nom de quelqu'un d'autre au moment d'un contrôle de
usurpation
d'identité, exactement, c'est en français, c'est comme ça qu'on dit, vol de carburant, rébellion, il y a des vols à toutes les lignes, donc il faut quand même remettre les choses un peu à leur place. Les gens qu'on présente aujourd'hui comme des victimes, oui, sont des victimes de l'accident, mais y a un moment donné, je pense que les gens en ont marre de voir cette inversion des rôles permanente. Il faut quand même rappeler que les policiers sont là pour assurer notre sécurité. Quand on regarde, et je termine juste par là, moi, il y a un détail qui me frappe, c'est que les 3 policiers qui ont ouvert le feu n'avaient jamais ouvert le feu par le passé, et les 3 ont le même réflexe, au même moment, ils ouvrent le feu. Donc, c'est pas un policier tout seul qui abat une personne, c'est 3 policiers qui sortent d'école et qui ont le même réflexe professionnel, qui est en fait de sortir leur arme pour se protéger et pour mettre fin au délit de fuite.
Jérôme Béglé.
La victimisation, la culture de l'excuse, ça suffit. Et la présomption de culpabilité pour un dépositaire de la force publique, un représentant des forces de l'ordre, ça suffit aussi.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci à vous de nous avoir appelés également au 39-21. Demain, vous serez avec Raphaël Delvolvé. Il est 12h55, la France bouge. C'est avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Romain, et on vous retrouve demain à midi pour Europe Midi. Nous, la France bouge, on va parler
de... On se retrouvera lundi.
Ah, vous retrouvez lundi.
Demain, c'est Raphaël Delvolvé.
Demain, Raphaël Delvolvé, vous lundi pour Europe Midi. Et nous, on va parler de restauration collective.